Et vous êtes bien sûr Radio Campus Amiens, vous écoutez Avant-Scène. Je suis Lucas, je suis ravi de vous présenter cette émission aujourd'hui. Pour ce 6e épisode du studio à la scène, on décrypte ensemble le live. Conseils, débats, témoignages, coulisses du live, c'est tout de suite. Et donc aujourd'hui, pour ce 6e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous 4 invités ce soir. Passionnés de rock, de jazz, de pop-rock, mais aussi de chansons poétiques et de variétés françaises. Merci d'accueillir TTM. Ou alors Thinking Too Much.
Nous avoir invité, donc François, moi je suis le bassiste du groupe.
Et fondateur du groupe.
Alors fondateur, pas vraiment, on pourra en parler avant qu'on en parle maintenant, mais l'histoire du groupe, le groupe a 2 ans. Et le socle du groupe, c'est Léandre et moi, Léandre qui va parler tout à l'heure, qui est le guitariste. Et on a associé, il y a 2 ans et demi maintenant, un batteur qui est mon fils, et qui n'est pas là ce soir parce qu'il est malade, malheureusement, alors qu'il aurait dû être là. Et une chanteuse qui, par ailleurs, fait aussi du violoncelle.
Et on va faire un petit rebond sur Élise. Bonsoir, Élise.
Bonsoir.
Alors, toi, tu es la voix, mais aussi pas que.
Ouais, c'est ça. Alors, moi, du coup, je suis chanteuse lead du groupe Thinking Too Much. Et je suis également violoncelliste. Voilà. Je mêle un peu les deux dans le groupe.
Tu as rejoint aussi le groupe en même temps de sa création ?
Non. Alors, moi, je l'ai rejoint environ un an après. En fait, je l'ai rejoint en 2023, en septembre 2023. Voilà, j'étais pas là dès le début, mais c'est lors d'une première rencontre musicale grâce à Charles, parce qu'on fait nos études tous les deux au conservatoire, que j'ai eu l'occasion de rencontrer le reste des membres du groupe. Et je sais pas, vraiment, on s'est attaché, je sais pas trop comment dire, mais.
Ça s'est fait progressivement.
Ouais, voilà, c'est ça. voilà, donc ils m'ont proposé d'entrer dans le groupe, et puis j'ai dit ok, et puis c'est chouette, ça s'amuse bien.
Et on va pouvoir rebondir maintenant sur Léandre.
Ouais, moi c'est Léandre, du coup, guitariste du groupe, et puis oui, là depuis le début, avec François.
Alors vous faites pas de la musique que depuis 2 ans ?
Ah non, nous on a enchaîné les groupes depuis 10 ans, ouais. Ouais. Plus de 10 ans même. Donc ouais, on a enchaîné les groupes de reprise pendant un petit moment sur Amiens, puis là, avec le projet Thinking Too Much, du coup...
On va pouvoir reparler de ce groupe, comment ça s'est fait et l'avenir. En attendant, il y a aussi, on a la chance d'avoir Rosalou avec nous.
Bonjour.
Alors toi, tu fais du ukulélé.
Oui, c'est ça.
Et tu joues pour
Je joue pour les familles, pour les enfants. J'ai commencé en crèche et là maintenant, je développe un spectacle pour les enfants de 6-10 ans et les adultes... amateur d'un peu de douceur et de poésie.
Donc c'est la chanson poétique et aussi des contes musicaux.
C'est ça. En fait, j'ai monté un conte musical qui s'appelle Yuko, l'enfant et l'éléphant. Et là, je le peaufine en ce moment et je commence à le jouer dans des écoles. La première date, ça a été à la bouquinerie du Sar d'Amiens, une petite librairie qui est très belle, je conseille. Et en gros, ça prône la bienveillance et je me sers de la douceur du ukulélé pour développer un univers doux et fantaisiste.
Donc quand tu dis spectacle, c'est plus un concert ou alors il y a vraiment un décor, t'imagines un show ?
C'est très minimaliste, c'est-à-dire que c'est moi seule en scène avec Yuko, le ukulélé personnifié, qui adore jouer devant les gens. Et je travaille en collaboration avec Marion Balasset sur un Kamishibai. C'est l'élément principal de décoration qui sont des illustrations.
C'est quoi un Kamishibai ?
C'est un petit théâtre japonais. Donc c'est un cadre en bois où on met dedans des illustrations. Et fait, c'est un peu l'idée de revenir à un écran fixe, entre guillemets, pour essayer d'aller en dehors de l'écran d'ordinateur ou du téléphone.
D'accord. Eh bien, écoute, on reparlera juste après de ce spectacle que tu nous parles. En attendant, aujourd'hui, on va parler de merchandising. On va parler aussi de la vie du groupe intergénérationnel, parce que c'est un groupe qui relie tous les âges, Thinking Too Much. Et puis enfin, on parlera aussi du jazz live et acoustic live. Hein, comment ça se passe sur scène ? Est-ce qu'il y a des différences amplifié ou pas amplifié. Et enfin, on va parler des besoins des artistes avec la fiche technique de Thinking Too Much et aussi de Rosalou. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Alors, est-ce que déjà, vous avez un merch, vous avez quelque chose durant vos concerts ? Ou alors, vous prévoyez peut-être de le faire ? Je vois beaucoup de sourires.
On en a depuis une bonne année maintenant. Ça s'est fait progressivement. Ouais. En fait, on en a fait pour la release party de notre premier EP. On a décidé en même temps que l'EP de sortir donc le disque, des affiches. Et puis, une erreur là, dans le merch, on a fait des gobelets en plastique, des éco-cups.
Ah, puis ils les ont confondus avec ceux du concert.
Et ça c'est un bide total.
Ah ouais.
On a encore tous nos éco-cups sous les bras. D'ailleurs, on aurait pu...
Il fallait en ramener sur le studio de Radio Campus.
La prochaine fois, on vient avec.
Faudra pas oublier.
Donc ça, c'est la première idée merch. Et puis, ensuite, on s'est rendu compte que voilà, ce qui marcherait sans doute mieux, ce que fait tout le monde, il n'y a pas de secret, c'est le t-shirt. Donc, on a des t-shirts. Et là, on en est à de deuxième édition de t-shirts. On a déjà vendu une centaine, donc on est content.
Alors justement, on en reparlera, mais il faut savoir que les t-shirts sur le merch, ça compte comme à peu près 60-70%. Et c'est dit sur Internet comme ce qui est le plus vendu. Mais c'est pas étonnant, hein, on en voit partout. Alors, dans un contexte de baisse des revenus liés à la musique, au streaming, tout ça, est-ce que le merch, vous pensez, ça peut rattraper cette baisse? Est-ce qu'il faut compter sur le merch comme plutôt un complément?
Je vais encore intervenir là-dessus, mais honnêtement, ça me paraît compliqué parce qu'on en vend assez peu. On en vend bien dans les festivals. Quand on fait des concerts en café-concert ou autre, c'est plus difficile d'en vendre. Et en tout cas, Thinking Too Much, on est en association, donc on tient une comptabilité. Et le merch, ça représente à peine 10%, quoi.
Oui, donc ça fait quand même un petit complément.
C'est quand même 10%, c'est un complément.
Oui, ça fait un complément, mais après, ça ne remplace pas les cachets. On ne peut pas vivre que du merchandising. Quoi,
Bien sûr. Après, est-ce que ça ne dépendrait pas aussi un peu de la popularité du groupe? Plus on monte et plus ça devient important.
Peut-être. Et puis de la façon aussi dont... Alors du public, c'est-à-dire que plus on fera des grosses scènes, peut-être plus... notre plus belle réalisation en merch, c'était le Festival R4. Où là, on avait été...
Vous avez joué l'année dernière?
Oui, c'est ça, ouais. Et donc, on s'est présenté... Il y avait la queue. Il y avait la queue au truc de merchandising pour acheter des t-shirts. Donc ça, on était très, très contents.
Ouais,
je vais justement pouvoir vous poser la question. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce merchandising? À part les gobelets et les t-shirts.
On avait les affiches et les t-shirts. On a vendu beaucoup de t-shirts. Et les CD.
Et
on faisait des lots. CD plus t-shirts.
Ouais, c'est ça.
CD qu'ils ont ramené à Radio Campus aujourd'hui, Radio Campus à main. Puis on écoutera bien évidemment des petits extraits après. Mais pour Rosalou, est-ce qu'il y aurait du merch ou pas? Tu me dis que tu commences un peu dans l'univers du spectacle.
Pour l'instant, tout n'est que... Rien n'est réel pour l'instant. Disons que justement, par rapport au Kamishibai, l'idée ce serait de pouvoir vendre... des petits kamishibai format A4 pour les parents et leurs enfants, de pouvoir recréer le spectacle à la façon d'un livre, mais là par le biais du kamishibai chez soi.
Et tu pourrais justement même peut-être mettre tes chansons poétiques dans un CD pour les,
exact.
Comme tu disais, pour les enfants avec qui tu...
Il y a plusieurs options qui ont été pensées. Ça peut être un CD. On avait pensé aussi en ligne avec par le biais d'un QR code en fait. D'avoir un site internet et que les parents puissent accéder aux chansons avec le QR code. Mais c'était un peu compliqué. Et aussi un livre-objet qui, là, ce serait pas le même prix, mais justement d'imaginer un ampli intégré au Kamishibai.
Oui, c'est sacrément pensé et décoré.
Oui, mais tout est hypothétique pour l'instant, mais on essaye justement de travailler avec une maison d'édition pour voir comment ça pourrait se développer.
Et alors donc sur ces stratégies de produits, est-ce que vous mettez votre logo? Est-ce que vous essayez de faire un peu plus minimaliste? Ou alors vous faites en fonction de votre tournée? Parce que ça compte aussi beaucoup, hein, ça, l'attirance du produit.
Bah, pour le coup, sur nos t-shirts et les éco-cups, tout ça, on met le logo, en fait.
Oui, ils sont venus avec...
François nous montre
avec
le beau logo de son t-shirt. Mais du coup, voilà, puis toujours dans
tu
la même couleur.
Tu m'en as pas ramené un, François?
La prochaine fois.
Mais du coup, voilà, on reste toujours dans une esthétique violet. Donc, le logo Thinking Too Much sera la plupart du temps en violet. Mais voilà, on le met sur les t-shirts. On a du noir, du blanc t-shirt. Et on a également des beaux éco-cups qu'on n'arrive pas à écouler, mais il y a le beau logo Singing Smash dessus.
Faudra les mettre devant sur le stand. Alors il y a plusieurs pièges fréquents qui ont été relevés par les artistes. Il y a déjà en produire trop. On pense que le problème c'est ça aussi, les coûts unitaires ils sont plus bas. On se dit ah trop bien, on va en produire 2500 pour Singing Smash. Il y a aussi négliger la qualité peut-être. Après ça, je pense que avoir un t-shirt c'est pas trop compliqué aujourd'hui.
Ouais, il y a de tout hein. En qualité de t-shirt aussi, il faut faire attention. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, si on veut le vendre à un prix qui est... Nous, on les vend, si on rentre dans les thèmes, on les vend 15 euros, bah, faut quand même que derrière, on ait un tissu assez épais, que l'impression tienne. Et donc, on fait attention aux fournisseurs, ça, c'est clair.
Sans vouloir influencer votre business, je trouve que 15 euros, ça reste pas cher pour un t-shirt de merchandising, quand même.
Ouais, mais pour réussir à en vendre quand on démarre, je pense que... Et malgré tout, on fait une marge qui est... est correct.
Ouais, c'est bien.
Et ça nous permet, on démarre.
On est toujours, quand on est émergent. Dans les concerts et festivals, tout ça, on est toujours impressionné par les prix. On se dit. Oui.
Ouais. Ben, on arrive à tirer pas mal les prix. On fait des grosses quantités. Quand je dis, pour l'instant, on a fait 200. Et l'écueil qu'on a eu, si je peux donner un conseil, c'est les tailles.
Ça,
c'est
ah oui.
Parce que quand on en fait, le premier commande, c'était 100. Et on fait quoi ? On met du XXL et on n'avait pas fait assez de XL et de XXL. En fait, on avait dit, on va en prendre que 2 ou 3 ou 4. On avait pris quoi ? 5 sur les 100, je crois. Mm-hmm. Et on s'est trouvé très vite coincé. Et c'est très compliqué, en fait, de savoir comment répartir ce détail.
Et alors, il aurait fallu faire en part égale ?
Pas tout à fait, mais on a fait beaucoup de petits, du S, en se disant, il y aura peut-être des enfants. Et en fait, on n'a rien vendu en S, quasiment
mais
rien.
Mais ça, ça dépend du groupe, en fait, ce que fait comme musique.
Et on n'avait pas fait assez de XL et de XXL, ça c'est clair. Il faut faire attention. Les gens aiment bien porter large les t-shirts, en fait. Donc,
c'est la tendance 2026 affirmée par François
le
avec
oversize.
Nous. Et puis alors, il y a donc, produire trop, négliger la qualité. Le mauvais pricing, je pense que pour vous, on est bien. 15 euros, c'est plutôt abordable. Sur vos prochains concerts, j'irai voir, j'irai vérifier. Et puis, oublier la. Oui.
Pour les. Vous avez réalisé les t-shirts, vous êtes passé par où ?
Pour le prestataire ? Alors, je ne sais pas si on en parle à l'antenne.
C'est quoi ? C'est un site de...
c'est un site de merch qu'on trouve assez facilement. Sur Internet, il y en a beaucoup. Mais nous, on a pris un site qui ne fait pas que du merch, qui est vraiment un site qui accompagne les musiciens.
En fait, tu vois, tu peux trouver des sites où il y a de la création personnalisable de merch spéciale pour les artistes.
Et sur le merch, ce qui est marrant, c'est que là, on est en train de se battre pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus pour diversifier. Moi, j'ai proposé des sous-bocs, mais je me suis fait rembarrer. C'est ça qui est dur en groupe, c'est qu'il faut réussir à vendre
des chaussettes. On en reparlera juste après.
Élise propose des chaussettes. Ça, je pense que c'est
une
bonne idée.
J'adore les chaussettes multicolores et tout ça. Je me dis des chaussettes Singing Too Much, mais pourquoi pas, en fait.
C'est vrai qu'on voit des chaussettes des fois sur les stands. Après, il faudrait peut-être faire un sondage pour savoir si.
Oui, c'est vrai. Non, mais je sais.
Je te soutiens à fond.
Mais tous les gens avec qui je discute et tout ça, tous mes potes, on est tous à fond dans les chaussettes multicolores et tout ça. Donc je me dis pourquoi pas des chaussettes avec le logo Singing Too Much, ça pourrait être très intéressant, je pense.
Ouais. Alors justement, on parlait du pricing. Faut savoir qu'un panier, il y a une étude qui a été faite justement sur le merchandising en fonction des concerts, tout ça. Ils ont fait plusieurs concerts, ils ont été allés regarder un peu partout. Ils ont fait leur enquête. Et ils ont dit qu'un panier moyen était entre 45 et 60 dollars. Alors le problème, je pense que... c'est pas surprenant du tout. Hein. On me regarde, mais c'est pas surprenant quand tu vas dans des concerts...
Mais pour Bruce Springsteen ou pour...
C'est ça le problème, c'est que les prix, ils montent, ils grimpent à 160 euros le sweat. Et du coup, je pense que ça fait un peu bouger quand même l'enquête. Hein. Et puis, tu disais que ça fait à peu près 10% du revenu de Thinking Too Much.
Aujourd'hui, à un stade de développement, on est à ça.
Et puis ils disent qu'en moyenne, sur une tournée, pour un groupe assez affirmé, ça pourrait être 30%. Donc au final, ça compte quand même un peu. Hein.
Ouais.
Il va falloir acheter plus, hein, François, comme t-shirt. oublier la logistique aussi, ça fait partie, les stocks, tout ça. Toi, tu disais avec le XL, le XXL. Donc de toute façon, ça s'apprend avec l'expérience, tout ça. Donc sur les prochaines tournées, ce sera sûrement différent.
Peut-être, ouais. On tient un tableau de bord qui nous permet de voir ce qui se passe au fil des dates. Et on réapprovisionne dans les tailles qui manquent. On s'est amusé aussi à faire une série limitée.
Justement, oui. Les séries limitées. Alors,
on les a vendues un peu plus chères, même si elles étaient au même coût de production.
Alors, il y avait un truc différent.
Ils étaient roses.
Ah,
faut pas le dire, ça, François.
Et alors, ça a bien marché, les éditions limitées ?
Ah, on en a plus.
Ah, carrément. Carrément, c'est super.
Ouais.
Et tu fais ça une fois par tournée ou...
On fait ça à l'occasion. Là, c'était pas Octobre Rose, mais pas loin, presque.
Ouais.
Le prochain coup, on verra, ça sera peut-être un bleu ou...
On peut savoir quand, peut-être.
C'est pas encore planifié.
C'est dans les idées de Thinking Too Much. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens. On reste dans le vif du sujet. On va parler bientôt vite groupe. Hein. On a affaire aujourd'hui au groupe Thinking Too Much qui est venu dans les studios. Parce que c'est un groupe intergénérationnel. Est-ce que tu pourrais le qualifier comme ça, peut-être, Léandre ?
Ah oui, bah c'est clair. Intergénérationnel, il y a quoi ? Il y a trois générations dans le groupe.
Je pense que François l'a pris un peu mal.
Non, mais c'est clair, moi je suis des années 90.
La définition de génération est relative, attention.
Moi je suis fin 90, et Lise et Charles, année 2000, et puis François, on le dit pas. Mais bien, un petit peu avant, on va dire.
C'est bien, les auditeurs ils se font des images là.
Je crois que c'est l'époque où on marchait sur la Lune.
Ah. Ça donne une idée. Alors ça se passe comment dans ce groupe ?
Eh ben. Super.
Au début, on va peut-être faire la chronologie.
Super, parce que du coup, je me sens jeune.
Et puis les autres, ils se sentent...
Les autres, ils sont plus vieux.
Voilà. Ah non.
Non, mais on a une chance incroyable. Et ça, c'est important dans la vie de groupe. Quoi. Enfin, je laisserai les autres l'exprimer aussi. Mais on se voit souvent, on travaille beaucoup. On se voit tous les dimanches, et parfois des dimanches entiers, la journée complète.
Vous avez un studio
Ouais, on a un studio...
À la maison.
Ouais. Et ça se passe très bien, on s'entend très très bien, et plus ça avance, plus on s'entend. On aurait pu craindre l'inverse.
Oui, c'est sûr.
Et donc ça, c'est cool. Non, je sais pas.
Et alors, est-ce que dans un groupe allant de 20 ans à la cinquantaine, quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a les mêmes objectifs ?
Parce qu'il y a peut-être pas les mêmes charges de travail,
loisirs, peut-être des objectifs.
Là, François va
nous. Non, mais ce qui est bon, déjà, ce qu'on n'a pas dit, je crois, depuis le début, c'est que il y a une particularité aussi dans le groupe, c'est que il y a mon fils qui est batteur, donc il y a en plus une relation père-fils qui n'est pas simple parce qu'on est quatre. Dans le groupe de quatre, donc il y en a deux qui sont dans la même famille, qui se connaissent bien et qui n'hésitent pas à s'engueuler en répète, on peut le dire.
C'est pas faux.
Donc, c'est bien parce qu'il n'est pas là, du coup il en profite pour
cracher. Peut-être qu'il écoute, je pense qu'il écoute même sûrement. Coucou Charles. Mais je ne sais pas comment vous vivez, vous.
Non, mais
attention,
voilà,
instant révélation sur Radio Campus Amiens.
Non, mais il y a des moments un peu plus tendus, mais globalement, voilà, ça se passe super bien.
Oui, non, puis je trouve que l'écart d'âge, on le vit plutôt bien. En fait, on s'entend bien, on se parle normalement. Enfin, voilà,
plus de la richesse alors ?
Oui, c'est sûr, ça apporte plus que. Enfin, voilà, ça nous apporte beaucoup. On a la figure de sagesse avec nous.
Et c'est aussi notre identité finalement.
C'est ça. Un mot fort du groupe, c'est la diversité.
Oui, c'est sûr.
On tient beaucoup à la diversité. À la diversité des styles de musique, à la diversité des styles d'habillement. On a des tenues de scène volontairement très...
Oui, j'ai remarqué.
Et ça, c'est un élément fort. Là. Et l'autre truc que je veux dire, c'est que...
On ne peut pas vous louper en festival, en tout cas.
Ouais. Et ce qui est bien aussi dans le fait d'être père et fils à la rythmique, d'avoir batterie et basse, je trouve que c'est un plus parce qu'il se passe quelque chose quand même au niveau de la rythmique. Mm-hmm. C'est solide entre nous. La rythmique, c'est important.
Oui, c'est important, basse-batterie.
Alors, donc, c'est plus de richesse avec l'apprentissage aussi, peut-être, le transfert d'apprentissage ?
Aujourd'hui, c'est plus Charles qui nous apprend des trucs. Plutôt le contraire, mais bon.
Non, mais peut-être qu'implicitement aussi, vous le partagez dans les deux sens, et puis c'est ça aussi qui fait la richesse de ce groupe.
Ouais. Non, c'est sûr.
Et puis, chacun apporte une approche très différente en fonction de sa génération, même musicalement, en fait. Hein,
On a tous des formations différentes, en fait.
Formations différentes, influences différentes. Oui.
Alors, formations différentes, mais aussi un rythme de vie différent, parce que dans votre groupe, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont encore au lycée, il y en a qui...
Oui.
Ça se passe comment pour ce rythme ?
Léandre.
Ah bah c'est moi le plus chiant. Moi, je finis à 19h, donc forcément, à chaque fois...
tu bosses le samedi.
Et je bosse le samedi. Et généralement, les festivals, c'est quand ? C'est le samedi. Donc... Donc voilà, mais sinon, on arrive quand même toujours à s'arranger. Bon, là, on a joué à Lille cette semaine en partant à 19h. En partant à 19h, bon, ça va, j'ai réussi à arriver à l'heure. Mais bon, c'est tendu, mais ça, pour l'instant, ça passe, quoi.
Il rate souvent les balances.
Ah, oui.
Et l'installation.
C'est quoi, c'est guitare, mais pas besoin de balance. À tous les ingé-sons qui nous écoutent. Non, il n'aurait pas dû dire ça.
Évidemment. Mais bon.
Et toujours dans cet aspect intergénérationnel... Rosalou, tu vas pouvoir aussi nous dire, parce que toi, tu fais des concerts devant un public qui est plutôt jeune.
Oui. Ben,
comment tu vis ça, ce lien avec ce public ?
Ben, en fait, ça s'est construit petit à petit, parce que moi, à la base, je ne sais pas forcément comment parler aux enfants. Et en fait, c'est en commençant à essayer de vivre du ukulélé dans les crèches que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup interagir avec eux. C'était pas mon premier public cible. À la base, j'ai commencé dans les bars et j'aimais beaucoup ça. Mais clairement, je trouve que ma formule ukulélé, mes chansons un peu douces, ça parle beaucoup plus aux enfants. Donc, en vrai, ça, le dialogue passe bien. J'ai la tranche d'âge que j'apprécie beaucoup, c'est 6-10 ans, parce qu'ils sont très en demande justement de ce genre d'univers un peu doux, un peu fantaisiste, que je développe justement.
Donc tu as découvert ça au fur et à mesure, même si c'était pas...
Exactement,
public,
sur le tas. Parce que clairement, moi, je suis pas du milieu de la musique à la base. Comme je m'y suis mis tard, sans bagage musical, ça a été bien justement de me former auprès d'un public jeune.
Oui, bien sûr. Alors, est-ce que Thinking Too Much, vous avez pu aussi jouer devant des publics très très jeunes ? Ou c'est toujours un peu le même style de public ? Parce que vous faites quand même pas mal de concerts différents, des festivals, des concerts...
Tout dépend de l'endroit où on joue, surtout. Tout dépend où on joue. Parce que finalement, quand on joue dans des bars, finalement, c'est plus, en effet, plus des gens, entre guillemets, 30, 40 ans, quelque chose comme ça. Mais par contre, quand... Là, par exemple, on a joué sur un tremplin à Lille cette semaine. Il y avait beaucoup plus de jeunes.
Ouais, ça dépend vraiment de l'endroit. Et puis, non, pour le coup, on n'a jamais joué devant un public comme celui dont tu parlais. Crèche, tout ça, on n'a jamais fait. Mais en même temps, notre style de musique s'y prête peut-être pas forcément. Mais du coup, oui, en vrai, ça dépend du lieu où on joue. Quel type de public a l'habitude de fréquenter ce lieu. Les festivals, en général, on a un petit peu de tout. Dans les bars, enfin vraiment, ça dépend.
Peut-être aussi que votre musique justement s'adapte à toutes les générations.
Ouais.
Écoutez, je vous propose même d'écouter un titre pour vérifier cette information.
Let's go.
Un titre qui a été écrit il y a une dizaine d'années par le bassiste et le guitariste du groupe. Il s'appelle Hate and Fury. C'est un morceau qui est engagé, qui alerte sur le retour de la guerre en Europe. En live, il marque les esprits avec le fort tambour martial. Il y a aussi une citation d'Albert Einstein qui a formé et constitué le nom du groupe Thinking Too Much. Dis-moi, Élise, t'es vachement présente, dis donc, sur scène. C'est plutôt un titre de fin de set ou alors
Non, c'est un titre de milieu de set. C'est à peu près au milieu. Et puis, à chaque fois, c'est assez étonnant de voir comment le public réagit. Quand on fait, par exemple, la citation d'Albert Einstein avant de commencer le titre, on a toujours vraiment le public qui réagit de façon différente. Et après, c'est assez amusant quand on fait le titre.
Comment est-ce qu'ils réagissent alors ?
Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont vraiment assez surpris. Il y a des gens très à l'écoute ou qui vont vraiment écouter la citation. Vraiment, ça dépend des gens.
C'est bien, ça fait une continuité du set, ça relance.
Ouais, c'est sûr. Mais oui, ça permet d'interpeller le public, en fait. Et puis, ça leur permet de se reconnecter un petit peu avec le set et la chanson.
Alors, écrit il y a 10 ans, mais joué avec Thinking Too Much, qui a été écrit il y a 2 ans. Comment ça se passe ?
En fait, quand au début de Thinking Too Much, on a eu la volonté très vite de faire un groupe qui ne soit pas un groupe de cover. Et donc, on a recherché des vieilles compos qu'on avait avec Léon pour démarrer tout de suite et enclencher tout de suite avec un premier EP de 5 titres. Et parmi ces titres, il y a des titres qu'on avait travaillés avec... Les deux groupes dans lesquels on a fonctionné avec Léandre avant, un groupe qui s'appelait Space Nails, voilà, si tu t'en rappelles, et un autre qui s'appelait No le groupe. Voilà. Et on a récupéré de ces deux groupes, je crois, deux ou trois compos,
deux,
mais
trois
qui étaient
titres,
à l'ébauche, quoi, qui n'étaient pas tout à fait finis.
On a et aussi remis à notre sauce.
On a remis à notre sauce. Et l'arrivée de Charles et d'Élise a permis vraiment de renforcer la mélodie, de renforcer la rythmique. Et Hate and Fury fait partie de ces titres-là. Et voilà. Donc, mais c'est un titre, c'est un titre qui marche bien, en tout cas en live. L'alternance entre les parties un peu planantes, des couplets et puis le punch des refrains, ça fonctionne bien.
Alors tu parles de live, Thinking Too Much, tu fais à peu près 20 à 30 concerts par an, c'est ça ?
Sur l'année dernière, on a fait plus de 20, oui, et on est parti pour cette année en faire entre 20 et 30 aussi. Ouais,
ouais, c'est bien, ça bouge. Alors ouais. C'est aussi dans Amiens, dans la région ?
Ah, pas que, non, là on commence à aller jouer sur Paris, Lille, on a fait Rouen également. Voilà, on est quand même plus souvent sur Amiens, dans la région, mais dans l'idée, le but, c'est de s'ouvrir un petit peu plus loin, aller chercher des scènes sur Paris, surtout.
Et alors, pour cette tournée d'une trentaine de dates, comment ça se passe, la santé du groupe ? Est-ce qu'elle est négligée dans votre groupe ? J'ai pas l'impression.
Bon. Vas-y, François, je sens que...
Ça dépend de quoi on parle en termes de santé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments dans la santé du groupe.
Stress en concert, préparation,
on peut aborder tout ça. Le booking, c'est aussi un élément. Je ne sais pas si ça fait partie de la question, mais trouver ces 30 dates ou 20-30 dates, c'est les musiciens le savent, c'est un travail... C'est un travail colossal, quoi. Quand on envoie 100 mails, on a deux réponses négatives.
Et encore, t'es gentil.
Et donc, constituer le réseau, réussir petit à petit à se faire connaître, à gagner la confiance des salles, ça demande du temps. Un exemple sur Rouen, le premier concert sur Rouen, il a fallu qu'on trouve un groupe de Rouen, parce que le programmateur ne voulait pas nous faire jouer venant d'Amiens. Il avait raison, on n'aurait pas rempli la salle, qui était pourtant une toute petite salle, un petit café. Et il se trouve que le programmateur et propriétaire de cette salle-là a une plus grande salle à côté. Et c'est d'avoir joué dans cette petite salle qui, petit à petit, nous a permis de jouer dans une salle qui est bien plus grande. Pour les gens qui connaissent le Fury défendu à Rouen, qui est une super salle. Et là, on a passé un super moment là-dessus.
Ça vous est déjà, parce que vous avez tous un rythme de vie différent, ça vous est déjà arrivé d'annuler des dates ?
Léandre, la parole est à toi.
Très peu. On essaie de ne pas le faire parce que ce n'est pas facile derrière. Mais d'ailleurs, on a une expérience où Léandre a été malade.
Oui, bah, j'ai eu la grippe il y a quelques temps. Là, pour le coup, 42 fièvres, tout ça, clou et au lit.
Dans ces cas-là, vous faites quoi ? Vous annulez totalement ça vous arrive de remplacer avec un peu de chance ?
Non, on ne veut pas remplacer. Thinking Too Much, c'est Léandre, Élise, François et Charles. Et voilà, c'est tout. S'il n'y a pas... C'est très fusionnel sur scène et je crois qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on fait si ce n'était pas à nous. Quoi. Donc on a annulé la veille pour le lendemain et d'ailleurs c'est difficile de revenir dans ce lieu. J'ai rappelé le programmateur en disant c'est vous qui avez annulé la veille pour le lendemain. Hein.
Avec les regards. Et alors toi, Rosalou, tu fais à peu près 4 à 5 concerts par an. Est-ce que tu...
Ouf, j'en suis loin pour l'instant. Moi, j'ai en fait les concerts. On va dire que dans une vraie, enfin pour une petite salle, j'en ai fait qu'un pour l'instant. J'ai fait surtout des cafés concerts pour le moment, et ça se compte sur les doigts d'une main parce que pour l'instant j'essaye de faire tout, que ce soit la partie musique, la partie booking, la partie administrative, et justement en parlant de santé mentale, c'est sacrément énergivore. Je sais que pour regarder la tête hors de l'eau, ça demande beaucoup d'efforts. Mais justement, c'est bien aussi de pouvoir se confronter à la partie du rêve et en même temps la partie où on voit la charge administrative que ça demande. Et je rêve d'un agent.
Mais tout le monde en rêve. Et donc après toute cette gestion, il y a bien évidemment la récupération et le repos et la récupération après concert. Vous avez tous les mêmes méthodes de récupération ? Du yoga
Non, après le concert, il faut ranger déjà. Il ne fallait pas le dire ça.
Il ne faut pas le dire aux auditeurs.
Non, mais sans rire, il faut ranger. Mais après, ça nous détend aussi. Puis je sais pas, on mange un petit peu tous ensemble après. Ça nous permet de décompresser un petit peu. Mais non, pas de yoga, pas de pilates, pas tout ça. Non,
non, pas sur la scène, encore après.
On commence par boire un litre d'eau.
C'est bien, sur Thinking Too Much, il y a une hygiène de vie super...
Menteur, François.
T'inquiète pas, sur Radio Campus, tu peux nous expliquer ta récupération post-concert, il n'y a pas de souci.
Non, mais c'est, en plus, tu dis, non, mais je bois beaucoup, parce qu'on perd beaucoup d'eau quand même sur scène. Oui, et moi, et l'erreur que je commets, et j'ai découvert que c'était une erreur en préparant l'émission par rapport au sujet que tu nous as envoyé, c'est que je ne bois pas avant de monter sur scène. Et je vais changer ça. Parce que j'ai souvent un gros coup de mou au milieu du set ou aux trois quarts du set, parce que je pense que je suis déshydraté.
Par exemple, je me rends compte, je suis la seule à me promener avec ma gourde à chaque fois pendant le set sur la scène, et je suis la seule avec ma gourde et tout. Bon, après, j'utilise ma voix, donc c'est quand même assez important pour moi de boire. Mais vous, je vous vois jamais avec une bouteille, et je pense que vraiment ça pourrait.
Le petit conseil.
Prendre une petite bouteille d'eau, pourquoi pas. Ça pourrait éviter les petits coups de mou, comme ça.
Et alors, si on parle avant concert, le track, est-ce que ça se passe pareil pour tout le monde ?
Non, là, c'est très différent.
Non, vraiment, ça dépend. Ça dépend. Je sais pas si...
Vas-y.
Non, mais pour le coup, moi, je sais que je vais stresser, même si je joue devant deux personnes, ou 100, ou plus.
Ah bah
je...
c'est bien, tant mieux.
Non, mais vraiment, je stresse pareil. C'est-à-dire que, en fait, dès l'instant que je dois faire un concert, je me dis, il faut que ce soit qualitatif, quoi. Donc forcément, je me mets une petite pression et tout ça. Mais en fait, ça me bloque pas, ça me permet de donner le meilleur de moi-même, quoi.
Bien sûr, le stress est une source d'énergie.
Yes.
Sure. Alors, bon...
Vas-y.
Ouais, c'est rapide, mais moi j'ai pas votre expérience de concert en festival ou quoi, mais lorsque j'ai eu l'opportunité de jouer devant les enfants, je sais que ça aide à relativiser, justement quand on est en crèche et qu'on arrive et qu'il nous dit c'est quand que t'arrêtes de chanter, ça peut aider.
Les enfants
et, quand ils sont très petits, comme ils sont souvent très dissipés, on a tout. Donc il y en a qui sont très concentrés et qui sont même en demande par rapport au ukulélé. Mais on a aussi ceux qui s'en fichent et qui, du coup, sont très brutales dans leur façon de parler, entre guillemets. Mais justement, ça aide parce que du coup, dès que j'ai une prestation, que ce soit dans les écoles primaires ou je sais que j'avais pu jouer... à la filature, l'île aux fruits, enfin, je me dis surtout au départ que je joue pour moi, et ensuite quand j'arrive à capter l'attention des gens, l'angoisse du début disparaît.
Mm-hmm. Alors justement, j'avais gardé,
je crois qu'il y avait Léante qui voulait parler.
Oui, non, après. Enchaîne si tu veux.
Non, vas-y.
Non, mais sinon, moi, au niveau du stress, j'ai pas vraiment de stress, c'est plus une envie d'y aller, en fait. Une envie de. Donc, pas forcément de stress, c'est plus de l'adrénaline, en fait.
Oui, ça commence direct, quoi.
C'est ça. L'envie d'y être, plutôt. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus le moment d'attendre le concert qui est le plus stressant que quand t'es dedans, quoi.
Alors, justement, il y a garder le plaisir, quand même, éviter ce track, mais aussi, et bon, je pense que c'est pas le cas pour vous autour du plateau, éviter le burn-out. Donc, il y a du burn-out par ici ? Non ?
Si, moi, oui.
En vrai, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ton point de vue sur le sujet.
Ouais, je t'enverrai des fiches qui permettent de détecter les premiers signaux.
Il a tout surligné.
Mais sans rire, c'est super important. Hein, parce que c'est vite arrivé, quoi. Surtout quand on est en autoproduction comme ça, hein, où on fait soi-même le booking, on fait soi-même la com, on fait soi-même tout ce qui est administratif à la SACEM, etc., les SDRM, enfin... C'est vrai que déjà, il faut rentrer dans les démarches. Ce n'est pas toujours simple administrativement. Et puis, quand on met ça au bout, on passe vite des... Je sais que moi, la sortie de l'EP, à la fin, c'était un peu juste. Hein.
Ouais.
Parce que j'ai passé des nuits jusqu'à 3-4 heures du matin à suivre quoi, pour réussir à tout boucler.
Ça me rassure, je ne suis pas la seule à me faire des nuits blanches.
Oh, mais ouais. Beaucoup d'artistes le font. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens. On est toujours avec nos quatre invités, le groupe TTM et puis Rosalou et son ukulélé. On aura peut-être tout à l'heure en direct un petit extrait. En attendant, préparez-vous à un voyage temporel avec le grand retour de Luc Angers et de son nouveau titre, La nostalgie du futur.
s'installe. La nostalgie du futur.
On est toujours sur Radio Campus Amiens, vous êtes bien sur l'émission Avant-Scène. On décrypte ensemble le live du studio à la scène, on décrypte ensemble les coulisses et puis toutes vos questions. Et bah écoutez, je vous propose de continuer. On est toujours avec nos quatre invités, le groupe TTM composé aujourd'hui de François, de Élise et puis de Léandre. Et comme je vous ai promis, le petit extrait ukulélé de Rosalou. Bah écoutez, tout est prêt ? On va pouvoir y aller. Alors, peut-être il y a un nom à ce titre ?
Oui, c'est La raison d'être de Yuko.
La raison d'être de Yuko, c'est tout de suite sur Radio Campus.
Je prétends pas vous comprendre et encore moins vous connaître. Mais quand mes cordes tremblent ainsi de tout mon être, c'est que je peux entendre ce qui vous passe par la tête. Pendant qu'on s'accorde, la magie opère, mes accords débordent d'un souffle solaire. Et c'était le refrain.
Et c'était le refrain sur Radio Campus. Alors ce morceau, tu l'as fait quand ?
Je l'ai fait cette année. Je me suis donné comme objectif en un an d'essayer de faire 12 chansons pour ce fameux spectacle. Et c'était l'une des premières.
Et du coup, on peut retrouver ces chansons où ? Sur toutes les plateformes ?
Pour l'instant, nulle part. Il y a un premier enregistrement qui va se faire justement là en avril avec Clément Maurice, anciennement du groupe The Yes, qui a un super studio et je le remercie. Et j'espère prochainement pouvoir le mettre Je pense en libre service sur YouTube pour commencer.
En libre service sur YouTube. Bah, c'est bien.
Merci.
C'est bien, c'est bien. En tout cas, c'était super. Alors, justement, là, c'est Acoustic Live, tes concerts ?
Oui. Enfin, j'ai le minimum souvent, c'est simplement un micro, un ampli. Et j'essaie de faire le plus léger possible.
Alors c'est bien parce que justement aujourd'hui on est avec Thinking Too Much, le groupe de pop rock jazz. Alors je dis jazz parce que il y a aussi des éléments de jazz quand même dans vos qu'on retrouve un peu partout. Je pense notamment au violoncelle peut-être d'Élise.
Alors pour le coup je dirais plutôt que mon violoncelle c'est du côté classique, mais après je fais aussi du jazz au niveau du jazz vocal parce que je suis au conservatoire d'Amiens. En chant, et du coup je pratique
le chant. Est-ce que tu essayes d'insérer dans Thinking Too Much ?
Oui, pour le coup, parfois dans les mélodies que je crée, on retrouve un petit peu de mon côté un peu jazz, soul, R&B, mais sinon,
oui, ce qui rebondit un peu la voix des fois.
Ouais, voilà, c'est ça, les fins de phrases, on peut souvent retrouver ça, puis des fois je fais des petites impros, voilà, ça, c'est un peu mon côté jazz, mais après il y a aussi Charles qui fait du jazz.
Ouais, principalement, en fait, là tout seul. Jazz du groupe, c'est Charles, le batteur, qui d'ailleurs une grosse pensée pour lui parce que on me dit à l'oreillette qu'il est pas bien, vraiment beaucoup de fièvre. Que bon, ouais, je vous passe les détails, mais on pense à toi, Charles. Et il est en formation à Paris dans une école qui s'appelle American School of Modern Music, et où il travaille énormément la batterie sur le jazz essentiellement. Et il nous amène alors sur certains titres, il utilise ses compétences jazz parce qu'on est sur des passages qui il s'y prête bien, mais par ailleurs, même sur les titres rock, il s'amuse à nous mettre des polyrythmies là où on n'y attend pas, et voilà, ça l'amuse beaucoup. Nous, ça nous perturbe un peu.
Ça marche quand même.
Mais ça donne une sonorité, une tonalité. Ça fait vraiment, ça donne une touche particulière au groupe, quoi. Le fait d'avoir pas un pattern qui fait poum-tchak, quoi.
Ouais.
Et okay. Ça fait partie vraiment de sa touche. Il se refuse à faire des trucs simples, et c'est normal parce que ce qu'il fait, c'est chouette. Et ça groove énormément. Et voilà. Mais un coup de temps en temps, on a parfois du mal à le suivre. Il va falloir qu'on s'améliore sur la polyrythmie.
Et alors, est-ce que vous, vous faites aussi un peu de, vous mettez un peu de touche dedans, François et Léandre ?
Alors moi, dans mes influences, et puis ce que j'apporte au groupe, ce sera plus un son un peu vintage, hein, un son années 60-70, plus...
Alors justement, tu as dit que ton matériel clé, c'était le pedalboard.
Ah oui, parce que c'est là où, voilà, où j'ai tous mes sons. Voilà, j'aime pas trop changer en fait, dans l'idée mes sons. Donc dans l'idée, j'aime bien jouer sur mon matériel. En fait, c'est très perso, en fait, le son de la guitare. Donc forcément, j'aime bien avoir ça.
Tu as créé ta propre tonalité.
Ouais, j'essaie d'avoir mon son. En fait, c'est ça le plus compliqué. C'est d'avoir un son attitré, mais en s'inspirant quand même des grands groupes de rock. Quand même,
c'est l'élément le plus lourd qu'on a à transporter dans la voiture.
Oh, merci, Léandre.
Bon, ça... Le pedalboard.
Ouais, il faudra faire le match avec l'ampli quand même.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. L'ampli basse, non ? C'est qui l'ampli basse ? C'est François ?
Ouais. Bon, les siens, ils sont légers, ça va.
Non, pour le coup, c'est guitare plutôt.
Et d'ailleurs, vous avez tout le temps à les prendre, ces amplis, ou la plupart du temps, c'est déjà incorporé sur le lieu ?
Les amplis, on les prend systématiquement parce que c'est le son, c'est notre son. Et voilà, le préampli, moi je travaille avec un préampli et des baffles Aguilar qui ont vraiment un son très, très particulier. Mmh. Et Léandre, c'est pareil. Vraiment, et donc ça, en général, sauf si on a une toute petite scène, on a fait l'expérience la semaine dernière à Lille, où là, on accepte de brancher la basse en DI, éventuellement. Mais c'est vraiment quand on est contraint.
Ouais, au cas où. Ouais. Mm. Et alors, est-ce que vous faites des petites sessions, des fois, d'improvisation, en live, des trucs qui n'étaient pas forcément dans le set, ou vous suivez vraiment une trame complètement stricte ?
Pour le coup, non, on a toujours notre structure, mais on aimerait bien, on en a discuté à plusieurs reprises, on aimerait bien se faire
n'est pas au courant.
Si, on en a discuté, arrêtez. Se faire un petit morceau où il y aura un moment qui serait dédié peut-être à l'improvisation.
Oui, les transitions de morceaux.
Ouais, par exemple, pour le coup, les transitions entre les morceaux sont toujours un petit peu improvisées du côté de Léandre qui remplit à la guitare pendant qu'on parle au public, etc.
Et donc, il y a une communication non-verbale pour ensuite reprendre...
Oui, c'est ça. Mais après, comme tu disais, même les enchaînements de chansons, on les a travaillés. On a pu faire une résidence en fin d'année dernière. En fin d'année dernière, fin août.
Oui, c'est ça.
On a fait une résidence de 4 jours où là, on a vraiment monté en fait un set même en travaillant les entre les chansons, en fait, les moments entre les chansons, ouais, les enchaînements, pour que ce soit vraiment le plus carré possible. Parce que c'est vrai que avant, ce qui faisait un petit peu défaut, on l'avait remarqué, c'était qu'on prenait beaucoup trop de temps entre les chansons. Donc là, on essayait de trouver quelque chose que ça s'arrête jamais, quoi, pendant durant tout le set. Quoi.
Donc prochainement, sur Thinking Too Much, des improvisations confirmées par François.
François, ça ne travaille pas en plus, c'est ça qui est bien. Donc, on ira.
Ça se travaille, l'improvisation.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être même du théâtre d'impro, ça peut servir dans ce cas-là.
Alors, est-ce que vous faites des sessions acoustiques un peu des fois?
En fait, on y réfléchit. Mais pour le coup, notre musique...
Vous en avez discuté cette fois-ci?
Est-ce qu'on en a discuté? Non, oui, mais... on en a discuté.
Après, on est quand même en capacité de s'adapter. Voilà, si on nous demande de l'acoustique, je pense que voilà, notre set, on peut le travailler. Je pense qu'en une ou deux répètes, on arrive à retransmettre ce qu'on fait en électrique, en acoustique, en modifiant deux, trois trucs. Ouais. Mais voilà,
mais
la base sera
fait,
la même. Mais on ne
l'a jamais
fait.
On
ne
l'a jamais fait pour l'instant, mais on y pense. Ouais.
Ce n'est pas l'énergie du groupe, de toute façon, l'acoustique.
Non, ouais. ce n'est pas trop l'énergie. Nous, c'est une musique assez punchy quand même. Donc, tout ce qui est amplifié, électrique, ça favorise tout ce genre de musique énergique. Quoi.
Là où on utilise beaucoup l'acoustique, c'est au moment des compos, où généralement, on se met dans le canapé avec des guitares acoustiques. Et puis...
Le fameux canapé de la composition.
Exactement.
Oui.
Je connais bien.
Et du coup, c'est là qu'on cherche les premiers trucs. Et puis, c'est souvent en acoustique quand même, ça.
Alors, est-ce que Rosalou a aussi un canapé de composition pour s'inspirer?
Mon canapé, je l'évite parce que moi, je m'endors dessus.
Alors, où est-ce que tu trouves ta source d'inspiration?
En fait, souvent, c'est en allant dehors. Je préfère largement une promenade parce que c'est là que je cogite le plus.
Avec Yuko ?
Exactement. De temps en temps, quand vous voyez une folle qui se balade en jouant du ukulélé en marchant, c'est moi.
Dans les parcs, un peu partout.
Oui. À vrai dire, quand t'avais parlé tout à l'heure de savoir le stress avant de monter sur scène, moi j'ai travaillé la peur de chanter devant les gens. C'est à la dure, c'est en chantant n'importe où, que ce soit dans les gares, à la cathédrale.
C'est le meilleur entraînement, ça.
Ah, mais ouais. Et en vrai, ça débloque aussi pour l'inspiration. Je recommande.
L'inspiration de Rosalou.
Merci.
Donc on a parlé donc de potentielles sessions acoustiques qui sont quand même différentes, alors qui sont du coup pas forcément très réalisables sur des grosses scènes.
Après,
des petits comités, des petites salles. Ouais.
Disons qu'on emporte plus difficilement, je pense, 500 personnes avec un caron et une guitare sèche, quoi.
Alors, est-ce que batteur va accepter le caron, c'est ça?
Après, ce qui se fait aussi beaucoup, c'est une petite session acoustique au milieu d'un set. Mais bon, après, c'est encore plus de matos à prendre. C'est encore
la logistique.
Il y a la logistique.
Ouais, faire une sorte d'entracte.
Ça se fait beaucoup.
Alors, on l'a déjà fait parce qu'il nous est arrivé, on ne citera pas le festival, mais un truc, je pense, improbable en festival, c'est 10 minutes sans façade.
Ah, on peut citer le festival.
Pardon ?
On peut citer le festival.
Mais ils l'ont super, ils l'ont super bien géré.
Il y en a partout des blancs sans façade. Franchement, il y en a partout.
Mais il y a eu un truc, apparemment, le système a planté, le système informatique.
Ça arrive,
Et donc, on a commencé par Charles a commencé par un petit solo de batterie. Puis, au bout de 5 minutes, il s'est quand même un peu épuisé. Puis, les gens en avaient marre, je pense. La batterie, c'est bien.
Batterie de 3 minutes.
Donc, on a arrêté et on a enchaîné sur un truc vaguement acoustique, reprise de Jeudi M. Et c'était un super moment. Donc, ça se fait.
Oui, non, c'est sûr.
Mais
peut être pas mal dans ces moments-là, c'est essayer de faire participer le public si jamais il connaît tes chansons.
Oui, c'est ce qu'on a fait. Justement, c'est ce qu'on a fait. En fait, les gens se sont tous rapprochés de la scène en plus, parce que généralement, au festival, ça se met un petit peu plus loin. Et là,
si vous voulez entendre ma voix, ils étaient obligés de venir.
Un conseil quand la façade ne marche plus, que j'ai vu déjà dans un festival, c'est vous prenez vos retours et vous les mettez vers le public. Et puis vous dites à la console de monter à fond les retours.
Et
une fois, ils avaient fait ça avait mis l'ambiance, mais c'était dingo.
J'ai envie de parler. Enfin, là, on parlait de faire participer les gens, un peu l'intimité. Tu parlais d'inspiration tout à l'heure. Moi, je sais qu'en vrai, un truc qui m'a beaucoup inspirée, c'est les gens. J'ai un passé.
Ton public aussi.
Ouais, mon public, là, petit à petit, je l'adapte aux jeunes, mais pendant un temps, les trois quarts des personnes avec qui je me retrouvais, c'était des gens, en fait, qui étaient malades. J'ai pas mal côtoyé le CHU. La première chanson que j'ai écrite, c'est vivre avec. Et en gros, c'est beaucoup de personnes qui m'ont passé des mots pour écrire la chanson sur une certaine maladie. Et je sais que ça m'avait beaucoup touchée. Et là, en termes d'inspiration, je sais que du coup, ça a un peu tracé en fait, tout ce que je veux faire maintenant. Parler de bienveillance, parler d'entraide et du fait que ça puisse aider énormément de personnes. Et là, le parallèle en fait, avec quand tu te retrouves face aux gens et que tu peux avoir une atmosphère un peu intimiste, je sais que justement, moi, je suis très friande de ce genre d'ambiance. Donc voilà.
Ah bah, il faut un public pour tout. Hein.
Oui.
Donc des points clés dans les événements qui marquent de l'inspiration. Et alors, dites-moi, ça s'entend toujours bien dans le groupe sur scène, ou alors des fois il y a des trucs qui sont imprévus et qu'il fallait pas faire? C'est déjà arrivé?
Vas-y.
Non, mais j'ai rien à dire.
C'est parfait. C'est parfait. Drôle.
Ouais, bon, généralement oui.
C'est la première fois que je vous sens un groupe quand même qui me dit il y a rien. Hein.
Vous êtes jamais en désaccord?
Si, non, mais si. Y a des trucs. Il y a des fois, il y a des trucs. Oui, il peut y avoir des petites plantades sur certaines choses. Et justement, on essaye de se reconnecter tous ensemble en fait, dans l'idée pour essayer de rattraper.
Mais sinon... Le principe, c'est qu'on considère vraiment qu'on est une équipe, quoi. Et voire même, et on se le dit, et ça fait partie de notre philosophie quand on monte sur scène, c'est qu'on est là pour se soutenir les uns les autres. Et parfois, c'est vrai que quand il y en a un qui n'est pas dedans, ça arrive tout.
Ah, ça arrive.
Toujours arrivé.
Hein.
On est plutôt en soutien, ou quand il se plante, voilà, plutôt que de faire une grimace, ce qui n'est pas terrible pour le public. On est plutôt à aider, quoi. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais? Arrête.
Alors, il arrive qu'il y ait des regards en disant tu bourres, t'arrêtes un peu, ça ralentit. Ça t'arrive assez souvent. Toi, t'es assez sensible là-dessus.
Bah, je suis sensible parce que forcément.
Non, c'est sur les tempos surtout.
Ouais, ouais, bah, c'est sur ça que je suis assez sensible. Quand à un moment donné, tu sens que le morceau accélère. Après, ça s'entend peut-être pas devant. Mais dans la façon de jouer, tout de suite,
oui, ça se ressent.
Tu le ressens, t'es moins à l'aise. Et puis, du coup, tu paniques, mais tu le ressens, tu sais que tu vas moins bien jouer parce que tu vas être pressé. Et
tu entraînes tout le groupe avec toi.
Ou à l'inverse, des fois, c'est justement le tempo, il est beaucoup trop lent. Et du coup, tu te dis, mais comment je vais emporter le public avec ça?
C'est ça, puis du coup, on perd de l'énergie. En fait, les tempos, c'est hyper important dans un morceau. Ouais.
Mais moi, ce que je ressens, c'est que dans le groupe, les moments de scène nous rapprochent et nous soudent peut-être davantage encore que le reste, quoi. C'est des moments où il se passe des choses, et de plus en plus on avance, là, plus on maîtrise notre set.
Il faut accepter l'imprévu.
Voilà. Ouais, et il se passe même des choses inattendues, et c'est ça que j'adore, et je sais pas vous, dans la musique, c'est qu'il y a parfois des éléments de scéno qu'on n'avait pas fait et qui apparaissent instantanément, on sait pas pourquoi, puis on fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait, mais qui procède de la fusion qu'il peut y avoir quand on fait de la musique ensemble, quoi. Et ça, c'est génial.
D'accord.
Donc de l'imprévu, et que vous comptez en faire plus en plus de l'imprévu? Avec le jazz, le petit moment jazzy que vous parlez.
Un petit peu d'impro, pourquoi pas, ouais. Pas l'imprévu.
Vous êtes toujours bien sur Radio Campus Amiens. On est toujours avec nos quatre invités, le groupe TTM et Rosalou. On va poursuivre bientôt avec l'interaction du public, hein, comment motiver son public. Et puis, on va aussi parler de la fiche technique de TTM. Hein, comment ça se passe? Est-ce que y a... Oh, je vois des têtes encore. À chaque fois que je lance un sujet, je vois des têtes. En attendant, ils ont aussi... Ça se tire dessus. En attendant, ils ont aussi fait un morceau qui s'appelle Fantasy. Alors, vous l'avez fait quand, ce morceau?
Fantasy, ça date d'il y a 2 ans.
Oui, donc quand le groupe est né, alors.
Ouais, ça date du début du groupe.
Non, c'est... il existait déjà avant. Ça existait avant que j'arrive.
C'est un titre de No, ça.
Ah, c'est un
titre de
No.
C'est un titre de No, mais qu'on a bien retravaillé.
Pour le coup, j'ai retiré toute la mélodie, tout refait.
Et c'est là, voilà. Non, mais typiquement,
c'est
un titre qui existait avant, mais Elise a vraiment apporté sa patte.
Mais c'est pareil, comme pour 18 Fury tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que 18 Fury, c'est l'un des premiers où j'ai tout cassé et tout refait, entre guillemets, bien sûr. Mais voilà, j'essaie d'adapter la mélodie à ma voix, parce qu'avec les précédentes chanteuses, on n'avait pas forcément la...
Alors justement, Fantasy, c'est un morceau qui parle de désillusion d'un amour trompé, mais aussi d'un espoir qui subsiste, porté par une envolée instrumentale qu'on va bientôt écouter. Alors sur scène, le morceau vit aussi grâce à une forte interaction du public, sur vos dates, tout ça, vous l'avez peut-être remarqué. Mm-hmm. Mais aussi grâce aux envolées lyriques de Délice.
C'est moi.
Alors justement, il y a ce moment de guitare et de batterie. mais aussi la voix éclatante d'Élise. Et le violoncelle pour finir. De fantasy, là, il y a trois univers différents dans un seul morceau. Comment est-ce que vous m'expliquez ça?
Ça s'explique pas. ça vient comme ça, c'est-à-dire que
c'est venu naturellement.
C'est venu sur le canapé.
Alors le retour du canapé.
Ouais, non, alors l'intro, c'est si j'essaie de me souvenir, c'est parti de la ligne de basse. Une ligne de basse un peu slapée qu'on a simplifiée d'ailleurs après parce qu'on trouvait qu'elle remplissait trop avec la batterie. La conclusion, l'outro, c'est un titre qu'on a composé à l'époque de No, et c'est le violon. On avait un violon dans ce groupe-là, et c'est le violon qui nous avait donné l'idée de faire cet outro très musique, très instrumental. Mais à l'époque, il n'était pas aussi justement. Là, on a vu que la batterie, la sonorité un peu plus jazz hein, arrive, et ça, c'est Charles qui l'a amené. Donc, c'est vraiment un mélange de, mais bon, après ta question sur, on aime bien et ça, et on s'était même donné comme objectif dans les compos du groupe de changer d'ambiance musicale dans le titre, de faire en sorte qu'on passe d'un style à un autre. Et ça faisait partie, on voulait que ce soit l'empreinte un peu de TTM. Et donc on s'amusait à mélanger du rock avec du reggae, à mélanger du métal avec un rock plus doux. Voilà, ça, dans chaque titre, on essaie de changer d'ambiance. Non,
je sais pas, Léandre, oui, non, mais c'est ça, c'était. Après, c'était aussi l'idée de, à chaque fois, ben, on se voyait, on avait nos idées, et on ressortait toutes les idées du dictaphone, en fait, de nos téléphones. Et puis, en même temps, tu te dis, ça peut aller peut-être avec ça. Et en fait, en faisant, en mélangeant un peu tout, ben, ça te donnait ce genre de choses, en fait.
Ça ferait le couplet, ça ferait bien le refrain. Ouais. Ah ben ouais, mais c'est pas la même rythmique, mais c'est pas grave, on va y arriver, on va remettre les arrangements comme il faut, et c'est comme ça que ça se construit, ouais.
Excellent. Et alors, est-ce que, Rosalou, toi aussi, tu suis une...
Une
méthode particulière où tu restes neutre au niveau de la différence de style durant ton set.
Je reste neutre parce que pour l'instant, à part ma voix et le ukulélé, j'ai pas grand-chose.
On peut faire différents styles avec du
ukulélé. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, ça reste assez doux. Ce que j'essaye de faire pour garder un tout homogène, c'est j'enregistre énormément de sons dès que j'ai quelque chose qui me plaît, parce que je passe mon temps à chantonner. Entre chanteuses, on se comprend, Élise. je le note, et en fait, ça, quand je vois que je pars un peu trop dans justement quelque chose qui est en dehors de mon style, et je l'enlève, quoi.
Il y a aussi les pédales qui pourraient te permettre de changer de style.
Oui, j'y pense. Mais pour l'instant, justement, en essayant de faire 3-4 métiers à la fois, je n'arrive pas à trouver le temps d'apprendre à utiliser les pédales. Mais j'ai un RC300 qui attend depuis un an chez moi que j'apprenne à utiliser.
En dessous du canapé.
C'est ça.
Toujours lui.
Et alors justement, on va parler de mobiliser votre public. On en a déjà parlé un petit peu juste avant. Est-ce que vous avez toujours la même façon de mobiliser votre public? Ou comme tu disais, Léandre, ça dépend du lieu. Et ça dépend du coup aussi du public qui est dans ce lieu.
Oui, bah, pour le coup, ça dépend. Mais après, on sait toujours à peu près comment on va pouvoir relancer le public. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la réaction du public. Et justement, dans Fantasies, on a beaucoup de moments pour que le public puisse interagir avec nous. Notamment il y a des moments où il y a un petit peu des blancs et moi j'essaie de relancer le public, où il y a des moments aussi où je fais une très longue note très très aiguë, et là le public en général ils sont un petit peu au début, enfin je sais pas si tu peux en parler François aussi, mais ils sont un petit peu perplexes, et après genre ça applaudit et c'est vraiment trop chouette parce que du coup le public redonne de l'énergie, et
Si tu penses que ta voix, tu peux nous la faire cette note et on va comprendre si tu veux chanter a cappella le refrain.
Moi, je veux bien, s'il te plaît. Vas-y,
Samien.
Mais si tu le sens. Hein.
Vous êtes sûr?
Okay. Ah, avec grand plaisir.
Ok, c'est parti. Oh là là.
Of science, sets an evil laser. No, don't end your fantasy. Tu nous as pas fait le petit bumping de jazz à la fin? Je n'attendais que ça.
Non, là, j'ai pas fait.
Ah, franchement, c'est très classe.
Bah, merci beaucoup.
Et sans échauffement.
Sans échauffement.
C'est ça qu'il faut noter.
C'est pour ça.
Mais j'ai le petit gobelet d'eau, c'est pour ça, c'est le petit secret.
Ah voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à aller voir directement en live TTM, mais on en reparlera après des dates. Ils ont ramené leur carnet qui est assez gros pour cette année. Et donc revenons sur ce public. Alors c'était Nage dans la toute première émission d'avant-scène qui nous disait que ça se vit sur le moment, les interactions avec le public. Est-ce que vous avez prévu en tête des petits moments de transition de... Ou alors, vous aussi, ça se fait vraiment en fonction du public et vous vous dites, c'est à ce moment-là que je vais faire cette blague.
Pas forcément des blagues, mais par contre, c'est vrai que maintenant, quand on compose, on pense également à comment pourrait réagir le public. Donc, on essaye, dans les compositions, même maintenant, dans les arrangements, même quand on reprend d'anciens morceaux, de trouver des moments stratégiques, en fait, pour créer de l'interaction avec le public. Je sais pas ce
que t'en penses, mais... et c'est vrai que, bon, après, c'est... Chaque public est différent et c'est ça qui est magique aussi dans la scène. C'est pour ça qu'on adore ça. Des fois, on arrive, on dit ouais, ce soir, on a une belle scène, il y a du monde, on va se faire. Et ça fait flop, quoi. On comprend pas pourquoi et ça se passe. Voilà. Et puis nous, on s'ennuie aussi parce que très compliqué en fait.
C'est imprévisible.
Ce qui est important, c'est que l'énergie tourne, quoi. Et on n'arrive pas toujours à la faire tourner. Et des fois, on arrive, on a une toute petite salle, on se dit voilà, là, ça. Et on a un petit rituel entre nous, c'est qu'à la fin du concert, on se retrouve entre nous, on se met ensemble, on se fait un câlin.
La fameuse planche charcuterie.
Ouais.
Non, toujours sur scène.
Toujours sur scène. On est sur scène et on se fait un câlin entre nous avant de saluer le public.
C'est mignon.
Et c'est à ce moment-là où on débriefe à chaud sur le concert. Et c'est très drôle parce que souvent on est d'accord, mais on n'est pas toujours d'accord. Mais souvent on est d'accord. Et quand le concert est pourri, était pourri à la fois, soit de notre faute, soit parce qu'on n'a pas réussi en barre. Ça arrive tout de suite.
Des fois,
on est dur. Ouais. Mais voilà, c'est en fonction du public. Mais après, on a quand même aussi des rituels. Par exemple, quand on a un set où on peut aller jusqu'au bout de notre programme, on a un titre qui s'appelle Made of Others, parce qu'on aime bien dire qu'on est fait des autres. Et là, en l'occurrence, on explique au public que sans le public, on n'existe pas non plus, donc on est fait d'eux. Et on a des émetteurs, on n'est pas branché, on n'est pas câblé au pédalier, on a des émetteurs, Élise a un micro sans fil. Et sur cette chanson-là, on va dans le public, justement, pour rencontrer les gens. Moi, j'essaye de parler un peu avec eux en même temps que je joue, je leur dis merci. Et c'est important pour nous, ça, c'est un moment à la fin du concert où on essaie d'interagir. Et dans le concert, on a quelques interactions au moment où tu chantes, là, comme on a vu tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui est en train de venir aussi avec l'expérience de la scène, hein, parce que plus on en fait et plus on a vécu des choses particulières sur certains concerts. Là, le dernier concert, j'ai vécu une interaction avec une personne du public. Il y en avait 30 que je voyais clairement devant moi, puis il y en a un qui m'envoyait quelque chose. Quoi. Et j'ai figé aussi, puis j'ai essayé de lui envoyer quelque chose. Et ça a marché.
Tu l'as reçu?
et je me suis dit que voilà, ça, c'est des choses qu'il faut davantage multiplier, parce que c'est intéressant.
Mais c'est cette proximité avec le public qui caractérise votre groupe, en fait. Que quand on vous voit en live...
On est plutôt un groupe de live, oui.
Ouais, vous êtes en live, vous êtes là, vous êtes dans le public, carrément. Si on peut le dire.
On aime ça. On aime ça et on aime que le public nous le renvoie. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à chaque concert. On veut de l'énergie, on donne de l'énergie, on en a à revendre, mais on aime que le public nous le renvoie.
Ah oui, c'est clair. Parce que sinon, c'est plus très intéressant, quoi, si le public ne nous renvoie rien derrière.
J'ai envie de faire partie de votre public, là. Je pense que ça donne...
On a parlé interaction publique avec le groupe TTM, Thinking Too Much et Rosalou. Prochainement, on va parler de leur fiche technique. On va savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin sur scène. Est-ce qu'ils sont exigeants? Est-ce qu'ils sont stricts? Ou alors, est-ce qu'ils sont plutôt cool? Est-ce qu'ils sont aimés par les ingé-sons? Pareil, ça fait des têtes, on verra. En attendant, je vous propose d'écouter Delusional, le nouveau titre de Courrier Sud et Casilambiste. Thank you.
Will you be my lady? Once every 2 weeks, just tell no one. I've liked you for a long, long time. Maybe I can't wait to hold life, hold life. Will you be my lady? Travel in the maze into your eyes, into your eyes. I've liked you for a long, long time. Maybe I can't wait to hold.
Et vous êtes toujours bien sur Radio Campus Amiens, vous venez d'écouter Delusional, le nouveau titre de Courrier Sud des Quasi-Lambistes. On est toujours sur avant-scène, on décrypte ensemble le live, les coulisses du live, on parle, on débat. Et bah écoutez, on reprend. Donc on est toujours avec nos quatre invités, le groupe TTM et puis Rosalou avec nous ce soir. La fin de l'émission approche tout doucement, mais je vous propose justement de parler de votre fiche technique. Est-ce que vous êtes gourmand sur la fiche? Est-ce que vous voulez votre bière à cet endroit-là? Ou alors est-ce que vous voulez juste un petit câble? Comment ça se passe pour tout le monde?
Tous les regards sont sur toi, François.
Je commence alors. Donc c'est un sujet, la fiche technique. La première fiche technique, donc TTM a 2 ans d'existence, vraiment en concert. Notre premier concert, c'était février 2024. Et la première fiche technique de TTM, c'était 2 pages.
Ah oui.
Ouais. Et
dès le début, clac, bam.
Ah, tu trouves que c'est déjà beaucoup?
Ça dépend, c'est 2 pages à 5 ou 2 pages.
Non, il y avait
ça dépend. Il y a le plan de scène dedans.
Voilà, la page 1, il y avait le plan de scène. Ah oui, sur la page 2, il y avait quoi d'ailleurs sur la page 2?
Le plan de feu. Non.
Je ne sais même plus parce que il y avait peut-être le patch quand même parce que j'avais compris qu'il fallait mettre un patch.
Ah oui,
j'ai pas compris tout de suite. Hein. C'est à la première, on m'a dit mais t'as pas de patch. J'ai dit, de quoi? Non, je fume pas.
Excellent.
Et donc ça c'est la V1. La V2, elle faisait 16 pages.
Ouais.
Et là, oui, parce que il se trouve qu'on a fait une résidence d'artiste c'est l'été dernier. Qu'on a croisé, on était accompagné par un technicien son, un technicien lumière. Et le technicien lumière m'a dit, ouais, ta fiche technique, parce que je l'avais envoyé avant, ouais, ta fiche technique, elle est un peu lèche quand même.
Ouais, alors justement, les techniciens, tout ça, la plupart en tout cas, ils préfèrent que ce soit détaillé. Alors pas plus, mais plus détaillé, pour que ce soit plus précis et que ce soit plus facile pour eux, justement.
Et donc il m'a dit, ouais, c'est un peu lèche, tu vas voir, je vais t'envoyer la fiche technique d'un artiste que j'ai, voilà, je vais t'envoyer un truc, tu verras. Donc il je dis pas quel artiste.
Je vais t'envoyer la fiche de Johnny, attends.
Voilà, et donc il m'envoie la fiche technique, là, je reçois un machin de 30 pages. Bah, en fait, c'est un producteur qui avait fait ça. Et quand je lui affiche, je dis, c'est pas possible. Les gars, ils demandent ce qu'ils veulent dans le tourcar, ils demandent ce qu'ils veulent en mer. Et en gros, c'est, on arrivera à telle heure, on veut que 30 minutes après, il y a un marchepied pour que l'artiste puisse descendre du bus. J'exagère, mais c'était presque ça.
Ouais, c'est ça.
Et là, je me suis dit, bon, d'accord, donc nos deux pages, là, ça va pas. Donc j'ai fait une fiche technique de 9 pages, en essayant de m'inspirer un peu de ce qu'ils avaient fait, en précisant plein de trucs. Et puis, quand j'ai répondu à un festival local, sympa, familial, il me dit, tu peux m'envoyer ta fiche technique ? Là, je l'ai relu avant de leur envoyer. J'ai dit,
c'est le moment là, c'est le moment de se lancer.
Je peux quand même pas leur envoyer ça. Et en fait, c'est compliqué ce sujet parce que je pense qu'il faudrait plusieurs fiches techniques en réalité, en fonction de l'interlocuteur qu'on a, justement dans le respect des techniciens qui nous reçoivent. Parce que.
Bah justement, dans celui de 16 pages, tu me dis, il y avait ça qu'il fallait 30 minutes après. Hein, parce qu'il faut pas confondre aussi le rider et la fiche technique. Est-ce que tu rassembles les deux ensemble ?
Il y avait les deux dans l'exemple.
Voilà.
Mais n'empêche, ça m'a permis d'ajouter des choses auxquelles je n'avais pas pensé, du type, à chaque fois, moi, j'étais stressé pour notre matos. Parce que tu arrives, tu poses ton matos. Maintenant, je précise bien qu'on souhaite qu'il soit à l'abri.
Nettoyé.
Protégé. Non, mais mine de rien, quand on arrive avec des instruments qui coûtent un certain prix, etc. Ça m'a aussi permis de préciser des choses comme, on vous prévient, nous, sur scène, on a des présentoirs spécifiques pour nos instruments qu'on a fabriqués, qui font partie de l'image du groupe. On met deux remplets motorisés devant chaque ampli. Donc, si vous pouvez les avoir, c'est mieux. Et voilà. Donc, on apprend, on est vraiment en développement.
Vaut mieux dire qu'arriver et puis faire de l'imprévu. Quoi.
Voilà. Et donc, tout ça, petit à petit, ça se met en place. Et au bilan, la V3, parce qu'il y a une V3 aujourd'hui.
Waouh, 40 pages.
Elle fait 5 pages. Je me suis dit, faut s'adapter.
T'as mis la police en 7, c'est ça?
Ouais.
Ah là là, je le voyais venir, c'est bon.
Alors,
est-ce que vous avez un... Ah, mais attends, on n'a pas parlé encore de la fiche technique de Rosalou.
Ma fiche
combien
technique,
de ukulélé tu apportes sur scène?
Il n'y en a qu'un. Il n'y a que Yuko, parce qu'il est le seul, le vrai.
La version 1.
Oui, c'est pour ça, moi, ça reste très simple. De toute façon, j'ai fait en fait ma première fiche technique il n'y a pas si longtemps. C'était pour le concours des Inouïs. Et c'est là que j'ai pu tester. Parce que moi, c'était un truc que j'ai entendu parler que cette année, à vrai dire. Elle fait qu'une page parce qu'en vrai, vu ce que j'ai, c'est largement suffisant.
Mais il vaut mieux qu'elle soit juste claire en fait. Ouais. Mmh. Et alors, donc là, on a parlé de fiche technique. Et le rider, alors, est-ce que vous avez tous un rider spécifique à chaque personne? Ou alors, c'est François qui l'a fait?
Alors, la spécialiste du rider, c'est Élise.
Ah bon?
Pourquoi? Je sais même pas ce que c'est.
J'aime bien la transition spécialiste, je sais pas ce que c'est.
Moi non plus, je sais pas ce que c'est.
Votre rider. Ah, c'est pour ça que t'as dit. C'est pour ça, d'accord, ok.
Ah, c'est comme pour le bout de champ. Ah, voilà.
Il t'a renvoyé, ok.
Ah, t'es vicieux, okay. François.
Ah ouais, très vicieux. J'aime bien la
cohésion. Elle est belle, la cohésion du groupe.
Je cherchais le mot, merci. Si tu veux qu'il y ait une bouteille d'eau cristalline, enfin jamais sur le cristalline, mais
c'est dans notre fiche technique.
Oui, vous la mettez dans votre fiche technique.
C'est ce qu'on veut, ce qu'on appelle en
quatrine.
Ouais, en quatrine, ouais.
Ouais, si on le met dans la fiche technique, ouais. Mais on est très 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 gentil, quoi. On a une petite tradition avec Léon dont on peut pas parler et qu'on met pas dans la fiche technique.
Dommage.
on est très soft, quoi. On demande juste de l'eau, des softs et. Mais je crois qu'on l'a précisé, oui, dans la fiche technique.
Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qu'ils ont, tu vois, c'est ça le truc.
J'ai vu sur les fiches techniques des artistes connus, là,
oui, mais
que les gars, ils exigent d'avoir du rhum comme ci et comme ça.
Ah oui,
ça va jusque-là. Des fruits secs et des fruits pas secs. C'est vraiment, il y a une demi-page, quoi, et c'est hyper détaillé.
Voilà, mais les mecs, ils sont payés 5 millions.
Je pense qu'ils n'utilisent pas le tiers de ce qu'on va lui mettre à disposition, quoi. Mais Pardon ?
Moi aussi, je voudrais des fruits secs.
Toi aussi, tu veux des fruits secs. Des...
à rajouter dans la version 4, François. La version 4 avec des plus fruits secs. Excellent. Donc un rider pour tout le groupe.
Oui.
De toute façon, ouais, vous, bouteille d'eau et puis.
Ouais. Bah nous, on est déjà super contents quand on nous reçoit bien.
Bah, c'est ça, en fait. Très souvent, c'est d'ailleurs. Ça, en fait, à notre échelle, voilà. On se dit, mais on s'en fout, voilà. On vient avec notre bouteille.
Puis, déjà, quand on a les boissons offertes, on est content. Hein.
Ah, ouais, c'est déjà ça. C'est sûr. Attention, tous les lieux ne le font pas.
Oui, c'est vrai.
Sans citer cette fois-ci, parce que c'est dans la mienne. Mais non, c'est vrai que c'est des formules de politesse, un peu. On peut voir ça comme ça. Et alors toi, Rosalou, toi, c'est peu différent parce que tes scènes, c'est plus des scènes dans des lieux publics. Donc,
oui,
tu viens vraiment avec tout ton matériel, tu t'installes tout de A à Z.
C'est ça. En fait, je me gère toute seule. Bah, en même temps, c'est assez rapide. Hein. En 30 minutes, moi, ma scène, elle est faite. Je n'ai pas d'exigence de rider, disons que un peu comme vous. C'est-à-dire que on m'offre la bouteille d'eau, un thé, une bière, ça dépend. Et j'ai pas de besoin spécifique.
Avec un peu de chance, du rhum et de glaçons.
ce genre de choses, quoi. C'est ouais. Rapide.
Et du coup, plan de scène, vous êtes toujours placé au même endroit ou alors vous changez en fonction des tournées, peut-être?
Non, bah là, depuis la résidence, ça nous a permis de mettre tout ça en place, en fait, dans l'idée maintenant.
C'était où votre résidence?
Sur Mantes-la-Jolie.
D'accord.
Dans une salle.
Et pourquoi aussi loin?
Georges Brassens.
Ah, bah parce qu'on a trouvé là-bas, tout simplement.
En fait, on a répondu à un appel à candidature.
Ouais,
c'est et ça, on, ouais, a été, on a été retenu.
Ouais.
Et du coup, plan de scène.
Et depuis, on a décidé qu'à partir de ce moment-là, le plan de scène serait comme ça. C'est là qu'on a eu l'idée même des lumières. Voilà, on met les lumières devant les amplis. Voilà, on est positionné, moi, à droite. De la scène, François à gauche, enfin voilà. On a tout décidé à ce moment-là.
Des lieux respectifs pour chacun. Et c'était déjà arrivé que des trucs ne soient pas respectés? Vous arrivez.
Ah bah forcément, des fois on s'adapte aux scènes. Là, on avait joué, c'était au Fury défendu, où forcément la batterie devait être sur un côté de la scène. Donc là, forcément, on s'adapte. Hein. La scène est petite, la batterie est dans le coin de la scène. Bon là, pour le coup, on avise. Hein,
Mais c'est plutôt rare. En général, on a toujours été... le patch était respecté, tout était prêt.
Ou peut-être pas le bon micro pour le violoncelle ou...
Ah non, le micro, pour le coup, c'est mon micro. Enfin, c'est le micro du groupe, quoi. Donc, j'amène toujours le même.
Au moins, c'est assuré.
Ouais, voilà, c'est ouais. Ça. Non, puis,
Mais après, ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'est... Nous, on a vraiment un profond respect pour tous les gens qui contribuent à la réussite, que ce soit le technicien qui monte la scène, les techniciens qui font tous les branchements, etc. Et on aime bien discuter avec eux quand on arrive. Et c'est vrai que...
Tous ne le font pas.
Non, mais pour moi... Bon, après, j'ai un petit côté... Je suis syndicaliste, par ailleurs. Et donc, j'ai peut-être aussi cette sensibilité-là humaine qui fait que je sais que tout ça fonctionne que si tous les maillons de la chaîne, du plus petit au plus grand... est présent et efficace, quoi. J'ai beaucoup de respect pour chaque élément de tout ce grand ensemble.
Ouais, et puis tous les groupes ne prennent pas en compte tous ces petits détails. Alors justement, les bonnes pratiques de la fiche technique, si vous nous écoutez, faire une fiche simple, détaillée, claire, je me trompe pas, hein. Pas trop de pages, attention. Identifier les priorités et puis de toute façon vous arrivez toujours préparé, vos événements sont toujours bien préparés.
Oui, on est toujours.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous écoutez Avant Scène, on est toujours avec nos artistes présents sur le plateau, en direct. Puis écoutez, l'émission de la fin de l'émission approche même, j'ai envie de dire, très très rapidement. On va peut-être pouvoir faire le petit point agenda. Est-ce que vous avez des dates? Alors, je sais que vous en avez, il y en a peut-être 30, mais on va peut-être faire celles qui arrivent le plus tôt.
Alors, les prochaines, celles qui arrivent très bientôt, on joue le 1er mai à Amiens dans le cadre de la Fête du Bleu.
Fête
du Bleu, c'est les 10 ans de Wake Up, Amiens.
Ah, oui.
Ça sera autour du Beffroi. Et donc, on installe une scène en partenariat avec les Déraisonnables.
Il y a d'autres groupes qui jouent ça?
Alors, sur cette scène, on jouera avec Étienne Détré, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite...
Étienne qui a sorti son nouveau single,
ouais.
Disponible.
Voilà. Et il y a un groupe après de cover qui joue après nous... Le nom m'échappe à l'instant, je suis désolé pour eux.
C'est le 1er mai après-midi.
Voilà.
Les 10 ans de Wake Up
Amiens. Il y aura plein de scènes autour du Beffroi, ça va être une grosse fête.
Votre prochaine date?
Ça, c'est la prochaine date.
D'accord. De toute façon, ça va être la saison qui va arriver.
Ouais, c'est ça. Après, on joue le 31 mai à la fête des ortillonnages à Camon. On joue ensuite le 21 juin pour la fête de la musique sur une scène en ville. Et on a deux festivals dont je ne peux pas encore dire le nom puisqu'ils n'ont pas encore annoncé leur programmation. Et ça, nous, on respecte. Voilà, c'est eux les premiers à communiquer. Ah, bah oui. Mais on a un festival dans la Somme fin août.
Quel festival?
Et un dans Seine-Maritime aussi fin août, sur le même week-end. Et après, pour nous, une grosse date à venir, on est très content d'être retenu, c'est l'Arthur's Day dans l'Oise. Pas très loin d'Amiens, en fait, c'est entre Amiens et Beauvais.
Et la, alors, la plus grosse date que vous allez faire cette année?
Alors, c'est difficile à dire.
Zénith de Paris ou de Bordeaux, je ne sais plus. Vous m'avez dit quoi?
Pour l'instant,
ce sera l'Arthur's Day pour le moment.
Il faut voir grand en TTM, là.
Pour l'instant, dans la prog, c'est l'Arthur's Day. Et on vient de gagner la demi-finale d'un tremplin sur Lille, où si on va jusque, on gagne la finale, on espère. On est deux groupes en lice. On irait jouer sur une scène un peu équivalente au, alors je sais qu'ils ont fait le Black Lab l'année dernière, il me semble, ce festival là donc voilà, ça c'est une belle scène sur l'île, on serait très très heureux d'aller jouer là-bas.
Un bel avenir pour TTM, et on va même pouvoir savoir l'avenir de Rosalou, qu'est-ce qu'elle prévoit?
Ah, écoutez, cette année les filles. Bah, moi j'ai une date de prévue, le 21 juin effectivement pour la fête de la musique. C'est organisé par l'association Bouge ton village à Varlois-Bayon. C'est tout pour l'instant.
Et alors ça va être devant une scène où il y a plusieurs groupes qui jouent
Alors je ne sais pas s'il y a une scène à proprement parler pour l'instant. Je sais que c'est pendant le festival organisé par, pendant la fête de la musique organisée par Bouge ton village, mais au niveau des détails, je n'en sais pas plus.
Mais de toute façon, tu prévois de faire des écoles
Oui, c'est en cours. En ce moment, je suis beaucoup sur les dossiers. C'est en travail avec plusieurs écoles. Mais pour l'instant, c'est la démarche suit son cours.
Bah, ça va se faire. Hein. Souvent, ils aiment bien les écoles à accueillir des petits acoustiques, des sessions acoustiques.
J'ai déjà testé dans pas mal d'écoles. Enfin, je pense à Châteaudun, par exemple, où les élèves ont été mais adorables. Et j'aimerais remettre ça effectivement avec pas mal d'écoles.
Et un bel avenir aussi pour Rosalou. On la suivra bien évidemment. Et bien écoutez, la fin de l'émission approche. Je vous propose de faire la petite tradition d'avant-scène. Alors je ne vous l'ai pas dit, ils me regardent tous avec des gros yeux. C'est quoi? Alors ça consiste en quoi? Vous devez me dire chacun votre tour la plus grosse galère que vous avez eue sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Un câble débranché, votre corde qui s'est cassée, la voix qui a cassé.
Plus d'une fois.
Alors dans ces cas, c'est pour ça la plus grosse galère.
Ça, c'est un petit problème, la corde qui casse.
Bon. Bah écoute, on va commencer par toi, Léandre.
Ouais,
Si tu devais penser.
Bah là, on a fini le concert. Bon, heureusement, c'est arrivé sur le dernier accord, là, le dernier concert. Bah pareil, plus de son.
Ah oui, la facette de 10 minutes dont vous parliez.
Ah non, c'est encore autre chose. je pense à un câble qui a dû se débrancher de quelque part. Bon, c'était sur la dernière note, la note finale. Bah, j'ai pas joué. Voilà,
Donc toi, en tant que guitariste.
Ouais, c'est ça. Ça venait de quelque part, mais je sais pas d'où.
On ne sait pas d'où.
C'est François qui avait marché sur le cap. Élise, ta plus grosse galère.
Bah moi, pour le coup, c'est le micro HF qui ne marche plus, qui bug. On entend une note sur deux, donc je suis obligée d'aller prendre le micro filaire de François, mais qui...
Qui veut pas le donner.
Non, c'est pas ça, mais c'est que pour le coup, le câble du micro filaire était défaillant, donc j'étais obligée de tenir le câble et le micro pendant... Tout le concert, donc voilà.
C'est sportif,
mais c'était sympa.
Ils n'ont même pas ramené un nouveau micro ou un truc.
Bah en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait que nous qui étions aptes à changer le câble, on ne pouvait pas arrêter le concert.
Ah, ouais,
déjà, on avait eu une panne de micro sans fil, on ne pouvait pas arrêter le truc et changer. Donc j'ai juste tenu mon câble avec mon micro. Voilà. Mais
c'est ça
sympa.
Qui forge aussi.
Oui, c'est ça, exactement.
Ta plus grosse galère, Rosalou?
Moi, j'avais chopé une angine et j'ai dû essayer de chanter des notes aiguës avec pas de voix. C'était un plaisir. Et voilà.
Ça s'est fait.
Exact.
Ça s'est fait.
Et j'ai eu un public très bienveillant, donc j'ai eu de la chance.
Et enfin, pour finir, la plus grosse galère du fameux François de ce soir.
Alors moi, j'ai un souvenir très précis. C'est un showcase qu'on a fait pour le festival R4. où on devait jouer. Ah voilà, d'ailleurs.
Ah oui.
Ah, bah, allez-y,
ah oui.
Parlez-en.
Ah
oui. Vous allez partir.
Ah non, en fait, c'est ça.
Non, c'est français, c'est français.
Et donc, on accepte de faire ce showcase où c'est nous qui amenions la sonorisation, etc., parce que c'était un petit événement. Donc, et je regarde avant la météo, et la météo dit il pleut jusqu'à 11h. Le showcase était à 12h30. Je dis parfait. À 11h, on installe le matos, tout. On était à peine couvert au niveau protection de la scène, c'était en extérieur. Et à midi, il se met à tomber une drache terrible.
Bah c'est vrai, il y avait du vernis sur le violoncelle.
Le matos dehors, le fameux pédalier de Léandre sous l'eau. Donc on réessuie tout juste avant de jouer. On commence à jouer, les gens sortent. Là, redrache. Et on a joué finalement devant presque... Mais il y a eu des courageux, c'était sympa, ils ont sorti les parapluies. Mais en fait, il faut faire le show. Il faut assurer le show parce qu'il y a le contrat vis-à-vis du prestataire. Mais en même temps, on pense... en permanence au matos en se disant bon, quand est-ce qu'il y en a un qui va faire crunch.
Et c'était où ça?
Et nous-mêmes on prend la flotte.
C'était où?
C'était la filature, la petite scène extérieure.
Vous
de la filature.
On rejoue à la filature cette année, non? Je me trompe?
Non. On est en train de planifier une date avec Philippe.
Avec Philippe. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir été là ce soir avec nous dans Avant-Scène sur Radio Campus Amiens. Un grand merci du coup à nos invités François de Thinking Too Much, Rosalou, Élise de Thinking Too Much et puis Léandre. Et on pense aussi au batteur qui n'a pas pu venir. Voilà, salutations
beaucoup.
Tout le monde. N'oubliez pas, on se retrouve très bientôt, le 21 mai, toujours à 20h pour des nouveaux témoignages et une nouvelle émission. On aura le plaisir d'ailleurs d'accueillir un booker professionnel qui viendra. Il va pouvoir répondre à toutes les questions qu'il y a eu durant les dernières émissions. Si jamais Thinking
Too Much... On aura des questions à lui poser.
C'est ça. Et on accueillera aussi Nicolas Ossiwa, chargé de la mission du département culturel de l'Oise et impliqué aussi dans la gestion de Make My Day. Ah oui, puis on a des cartes... Il y a François qui me donne des cartes de visite de Thinking Too Much. Magnifique, avec arrière et magnifique aussi. Merci beaucoup pour tous ces petits merchs. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à faire vibrer la scène aménoise et puis on se revoit très vite sur les ondes.
Avant scène sur Radio Campus, des notes qui vibrent et cœur en bonus. Sur scène, tout change, tout s'élance. La musique vit et prend sa chance.